Bonsoir à tous, frères et sœurs, et que le nom du Seigneur soit béni. On va lire une lecture dans Luc, chapitre 11, s'il vous plaît. Luc, chapitre 11, verset 1er, tout un enseignement sur la prière qui aboutira sur le baptême du Saint-Esprit. Car la volonté de Dieu, c'est que nous ne prions pas pour prier, mais pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord ?
Amen.
Luc chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Nous gardons cette page, s'il vous plaît. Nous allons voir une autre lecture qu'on va mettre ensemble ce soir pour comprendre ce que je veux partager avec vous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus va éprouver les disciples. Il va les éprouver, pas pour les éprouver, mais parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut manifester sa puissance. Et sachez-le, si le Seigneur est en train de vous éprouver, cela peut contribuer à manifester sa puissance. Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver. Retenez bien la suite. Car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. » Un enseignement sur la prière qui aboutit sur la vie de l'esprit. Une histoire sur la façon dont le Seigneur peut éprouver ses enfants pour pouvoir manifester sa puissance nous rappelle quand même un verset de l'Ancien Testament qui où il est dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je voudrais que nous soyons tous convaincus
que l'œuvre de Dieu ne peut prospérer que lorsqu'elle est entre ses mains. Il est hors de question que l'œuvre de Dieu soit dans les mains des hommes, dans les programmes des hommes, dans les idées des hommes. Il y a des choses que Jésus a préparées. Il savait ce qu'il allait faire. Vous croyez que Dieu sait ce qu'il a à faire à Toulouse? Vous croyez que Dieu sait ce qu'il a à faire dans vos maisons, dans vos foyers? Est-ce que Dieu sait ce qu'il va faire? Est-ce que le Seigneur a des projets? Est-ce que Jésus, dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il est parlé des œuvres que Dieu a préparées? Oui. Est-ce que c'est écrit que je connais les projets que j'ai formés sur vous? Dieu a-t-il des projets pour le peuple, pour la France, pour Toulouse, pour votre vie? Oui, Dieu a des projets. Paul en parle comme étant des œuvres préparées à l'avance. Et voilà, mais nous, nous sommes confrontés à des dilemmes, à des défis, à des frustrations, à des problèmes. Voilà, dans l'histoire où Jésus enseigne sur l'importance de prier, il fait allusion à quelqu'un qui n'a rien, qui n'a rien à offrir. Est-ce que nous pourrions parfois ne pas nous retrouver à la place de ces apôtres ou de cet homme qui dit, voilà, j'ai rien à offrir? C'est pas vrai des fois? Vous ne sentez pas des fois une espèce de stérilité qui nous envahit? Et cette honnêteté, Seigneur, moi aussi, j'ai rien à offrir. Ou comme dans la deuxième histoire, nous sommes là, il y a une foule, une grande foule autour de nous qui est en train de mourir, qui est déjà morte spirituellement, parce que les gens sans Dieu sont tous morts. La Bible dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Et le problème, ce n'est pas que les pécheurs soient morts, ça c'est tout à fait logique. Le problème, c'est que les chrétiens qui ne veillent pas peuvent tout à nouveau mourir spirituellement. Vous êtes désolé de voir que les pécheurs sont morts spirituellement et que si Jésus revient, beaucoup de nos contemporains resteraient là pour subir la colère de l'agneau. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez que lorsqu'une église n'est pas en bonne santé, elle court le danger de s'entendre dire, comme l'église de Sardes s'est entendue dire, on va le lire d'ailleurs dans l'Apocalypse, qu'il faut le lire, que la mort ne peut toucher plus que les païens. Il y a des textes. Et la résurrection de Lazare est la preuve qu'un chrétien peut mourir et qu'il a besoin d'une nouvelle résurrection. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, il y a une église qui est retombée dans cette mort à cause de ne pas avoir veillé. Il n'en faut pas beaucoup pour reperdre cette vie spirituelle. Les vierges folles étaient mortes à cause de leur négligence. Apocalypse chapitre 3. Verset 1er écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Vous voyez, c'est ce qui avait manqué. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Ça vous arrive de voir des gens habillés tout en blanc? Il y a des gens qui sont habillés tout le temps en lin, vous savez? Et quand je vois des gens habillés en blanc, je dis, tiens, tu seras comme ça dans le ciel. On sera habillé de vêtements de fin lin. Vous le saviez? Hein? C'est bien? Oui, c'est bien. Ouais. Mais voilà, cette église, le Seigneur lui dit, voilà, tu es morte. Alors, il vous faut voir ce qu'elle lui demande. Vous savez, qu'est-ce que Dieu demande en premier? C'est important de comprendre les choses. Parce que c'est comme ça que nous nous retrouvons sans pouvoir rien faire. Comme Philippe qui était là, mais on ne peut pas renvoiler. Dans un autre texte, il dit, mais renvoiler. La nuit approche, et renvoiler. C'est facile de dire, ben Jésus va revenir. Ben écoute, Seigneur, c'est leur problème. Après tout, ils n'avaient qu'à se convertir quand on leur a distribué les évangiles. On peut renvoyer le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Et on commence à vouloir renvoyer le problème lorsque cette mort revient. Et l'église de Sardes, alors relisons-le parce que c'est quand même important. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Sois vigilant. La vigilance, la détermination. Si on a le temps, ça m'étonnerait, mais je voudrais vous parler de la détermination d'Élisée qui a persévéré alors que tout était fait pour qu'il reste coincé dans la ville où il était pour recevoir le manteau d'Élie qui représentait le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la vigilance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas sérieux avec la piété, avec l'important. Vous voyez, cette église, elle pensait qu'elle était vivante parce qu'elle fait des œuvres. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que je fais des œuvres que j'ai vraiment cette communion avec Dieu. Les païens, ils ne font pas des œuvres, les païens? Est-ce que les païens font des œuvres? Vous voyez? Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont la vie. Bien sûr que les œuvres doivent suivre la foi. Une foi qui n'est pas suivie d'œuvres est une foi qui est morte. Mais ce n'est pas non plus parce qu'il y a les œuvres que l'Église est forcément vivante. Vous me suivez? Ça paraît un peu confus, mais c'est très clair en vérité. En tous les cas, les œuvres, c'est une chose. La communion avec Dieu, ça n'est une autre. Mais il est certain qu'une véritable communion avec Dieu fait qu'on fera des œuvres, c'est incontournable. Donc, vous voyez, le problème de la vigilance. Affermis le reste. Peut-être ce soir, vous dites, je dois m'affermir. La Bible demande d'être ferme. Pourquoi tant de chrétiens sont dans le doute? Mais c'est l'inverse de l'affermissement. Quelqu'un qui doute, c'est l'inverse. La Bible dit, sois ferme, inébranlable. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rappelle-toi, vous savez, autant c'est nul de vivre dans le passé, parce que la Bible nous demande d'oublier ce qui est en arrière, autant c'est important de se rappeler de certaines choses. Est-ce que vous vous rappelez comment vous vous êtes converti? Est-ce que vous vous rappelez la bénédiction que cela a été de passer des ténèbres à la lumière? Alors, les chrétiens, bien sûr, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas convertis. Alors, ils ne peuvent pas me rappeler, oui, j'ai pris le baptême, mais voilà. Mais le Seigneur, pour nous aider, nous demande de nous rappeler ce que nous étions sans Dieu. C'est écrit, souvenez-vous de ce que vous étiez. En même temps, il nous demande d'oublier ce qui doit être oublié. Il y a des choses dans le passé, il faut les oublier. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, un des problèmes de l'église de Sardes, c'est qu'elle n'a pas veillé. Pourquoi tant de chrétiens ne vont pas bien aujourd'hui? C'est qu'ils n'ont pas veillé. La parabole des 10 vierges indique cet assoupissement et surtout cette perte d'huile par le fait qu'il n'y a pas eu de veille. Un chrétien, il veille. Il veille sur son âme. Il surveille son âme. Il dit, mais où j'en suis vraiment? Ça devrait être fait le dimanche matin quand on prend le pain et le vin. Ça devrait être quand même là incontournable, un rendez-vous incontournable pour savoir si on est en communion avec le Seigneur. Cette église s'est entendue dire que beaucoup de ses membres étaient morts parce qu'ils n'ont pas veillé. Ce soir, nous sommes là parce que nous voulons veiller. Nous veillons les uns sur les autres, mais nous veillons surtout sur notre âme. Oui, un homme qui se retrouve dans une situation, dans un enseignement sur la prière, il n'avait rien à donner. Peut-être que plusieurs en sont là ce soir. Vous dites, moi je l'ai chanté, mais c'est beaucoup plus grave que le cantique. Je n'ai rien à donner. Vous l'avez lu avec moi? Vous avez gardé la page? Ouais. Dans Luc 11, je n'ai rien à offrir. On l'a chanté, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Qu'un cœur fatigué de souffrir. Bon, c'est bien joli, mais on ne va pas chanter ce cantique tous les jours en justifiant notre misère. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Il nous donne la solution. Si que nous ne pouvons pas donner du pain à nos amis, pécheurs, car après tout, il faut les considérer comme des gens qu'il faut aimer. Est-ce que c'est bien d'aimer les pécheurs? Bien sûr. Cette parabole, elle est dans le cadre de la prière pour nous rappeler avec beaucoup d'intensité que même si on n'a rien à offrir, que c'est le milieu de la nuit, il faut quand même se lever et dire à celui qui a du pain, donne-moi pour que je puisse à mon tour le donner. Parce que si nos amis pêcheurs n'ont pas de pain, le Seigneur, lui, il a le pain en abondance. Et c'est l'enseignement de cette parabole qu'on appelle la parabole des trois amis, que le grand ami des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut nous donner du pain? C'est pour ça qu'il dit, mais demandez. Et beaucoup de chrétiens demandent, mais ils demandent pas justement. Ils ne persévèrent pas. Vous voyez, demandez, cherchez et frappez. Il y a un problème, parce que peut-être on n'a plus d'espérance. On n'a pas compris ce que Dieu allait faire. Vous savez, la volonté de Dieu, elle est bonne, la volonté de Dieu. Vous n'en doutez pas. Vous le croyez que la volonté de Dieu, elle n'est pas que bonne. Elle est bonne, agréable et parfaite. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on ait une vie gâchée. Même dans l'église de Sardes, où on aurait pu voir que ça aurait pu se terminer beaucoup plus grave. Le Seigneur dit, mais non, mais repens-toi, veille, rappelle-toi, sois vigilant. Et tu vas voir, il y aura des vainqueurs à Sardes. Il peut y avoir ce soir, dans nos cœurs, cette conception de la victoire. Dieu ne veut pas qu'on ait une vie gâchée, une vie au rabais, une vie d'échec, de découragement. Dieu veut une église où les gens soient vigilants. Et ça va manquer beaucoup à la fin des temps, cette détermination. Dieu veut que nous portions du fruit. Est-ce qu'on porte du fruit? Est-ce que vous portez du fruit? Jésus a mis Philippe à l'épreuve. Paf, ce jour-là, c'est entre guillemets tombé sur lui. Voilà. Jésus a mis Philippe à l'épreuve. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous mette à l'épreuve? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Dieu nous mettra quand même à l'épreuve. Mais Dieu, écoute la réponse. Joseph n'a-t-il pas été mis à l'épreuve? Combien d'années? Non, c'est à 17 ans que ça s'est passé. 13 ans. 13 ans, il a été mis à l'épreuve. Dieu était avec lui, tout le temps dans l'épreuve. C'est extraordinaire. Il a accepté l'épreuve. Dieu a été avec lui dans l'épreuve. Mais il a été mis à l'épreuve. Je parlais d'Élisée. Élisée a été mis à l'épreuve. Lui, il voulait la bénédiction qui reposait sur le prophète. Et chaque fois qu'il voulait aller d'une ville à l'autre, il dit « Reste ici ». Vous savez, il y en a un qui est fort pour faire en sorte qu'on reste à l'état où on en est aujourd'hui. Reste là, t'as déjà avancé, c'est déjà pas mal, t'as fait des progrès, c'est bien, regarde, compare-toi aux autres, t'as vu comment t'es bien à côté des autres. Peut-être c'est vrai en plus. À côté des pêcheurs, on est quand même mieux. Oui ou non? Ben oui. Qui c'est notre père? Qui c'est votre père? Vous n'avez pas été sauvé par grâce? Vous n'êtes pas passé des ténèbres à la lumière? C'est pas bien tout ça? On pourrait faire la liste, la longue liste des bénédictions. Et on pourrait se contenter de rester ici, à ces bénédictions que nous avons déjà obtenues. Mais Élisée, il est passé à chaque étape, il a été mis à l'épreuve plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il arrive au Jourdain, qui est l'image de la mort à soi-même, cet homme qui a accepté de mourir à lui-même pour pouvoir recevoir la bénédiction du Seigneur. Oui, Dieu ne nous éprouvera pas tous de la même manière. Dieu sait la pression que vous pouvez vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu va vous éprouver tous pareil? Non, Dieu... Il le sait, le Seigneur. Il sait la pression que l'on peut accepter. Il connaît chacun d'entre vous à la perfection. Et il sait exactement ce que vous pouvez subir, accepter, pour être fortifié et guéri. Mais il peut nous mettre à l'épreuve. C'est quelque chose d'important, ça. Et oui, il y a la solution de renvoyer la foule. Parce qu'on peut dire, la grâce va se terminer. L'heure de la grâce s'achève. Moi, je le pense quand même. Quelque part dans mon cœur, je le pense. Que le monde est mûr pour la colère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas un jugement, peut-être que je me trompe, mais je vous prie d'accepter ma façon de voir. Je pense quelque part que l'heure de la grâce est vraiment en train de s'achever et que le monde est mûr pour la colère. Je ne suis pas trop... C'est peut-être pas tout à fait juste, mais quand même, ça tient debout. Bibliquement, ça tient debout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on pourrait dire, c'est leur problème. Après tout, hein. Il se moque, mais Dieu, lui, tant qu'il est assis sur le trône de la grâce, il veut sauver des pécheurs. Et le mot d'ordre est le même, donnez-leur vous-même à manger. Il n'avait pas compris que ce que peut-être nous n'avons pas toujours compris, c'est que le miracle, c'est Jésus qui va le faire. Vous le comprenez? L'œuvre, c'est Jésus qui va la faire. Nous, on n'a pas grand-chose, mais ce qu'on peut faire, on va le faire. Est-ce que vous avez une vision pour l'œuvre de Toulouse, pour l'assemblée dans laquelle Dieu vous a placé? Est-ce que vous soupireriez à ce que l'Église grandisse, que des pêcheurs se rajoutent, que nous puissions travailler pour la formation des pasteurs, que nous puissions voir des ouvriers se lever dans l'Église, que nous puissions aider l'action missionnaire, les pays de l'Est, que nous puissions aider, vous voyez, des projets? Est-ce que vous y aspirez à ça? Est-ce que ça fait partie d'une vision dans votre cœur? Quelle est votre vision? Répondez-vous à vous-même en 10 secondes. Quelle est ma vision de l'œuvre de Dieu? Quelle est ma vision pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je veux au plus profond de mon cœur? Est-ce que j'accepte que Dieu m'éprouve comme il a éprouvé Philippe? C'est vrai, donne-leur vous-même à manger, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas nourrir 5000 hommes sans les femmes et les enfants alors qu'on n'a déjà rien à offrir. Mais ils n'ont pas compris. Il vous faut comprendre. Il nous faut comprendre que c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. La seule chose qu'il faut, c'est que le peu que l'on a soit entre ses mains. Les quelques pains et les quelques poissons qui n'étaient même pas aux apôtres ont été placés entre les mains du Seigneur. Est-ce que votre vie, est-ce que ma vie, est-ce que l'Église est entre les mains du Seigneur? C'est une question qu'il faut que nous nous posions. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, oui, ma vie est entre les mains de Dieu, ou est-ce que c'est comme on le voit aujourd'hui partout dans les églises, dans les mouvements, dans les conventions, on est là avec nos raisonnements, comme là. Mais il faudrait 200 deniers pour nourrir cette foule, et même avec 200 deniers, personne n'en aurait pas grand-chose de toute façon. Voilà. Et on est là aujourd'hui, on assiste, j'ai pas honte de le dire, je le dis devant Dieu, dans nos pastorales, on est tout le temps là, dans nos conventions, et il faudrait davantage d'argent. Mais bien sûr, ça tient debout. Il faudrait davantage d'écoles bibliques. Il faudrait davantage de comités qui réfléchissent. Il faudrait des vieux. Maintenant, il faudrait des vieux parce qu'ils ont la sagesse. Avant, il fallait des jeunes parce qu'ils avaient la vigueur. Maintenant, quoique maintenant, c'est les deux ensemble. Il faut la jeunesse et les vieux ensemble. Moi, ça me fatigue, ça. Ça me fatigue. Moi, je crois qu'il faut des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. Quand on s'est converti, on n'a pas beaucoup d'expérience. Je veux dire, bien sûr que plus il y a du bon sens, plus il y a de l'intelligence, plus il y a des comités qui réfléchissent. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Et on prend le risque, lorsque on discute, de penser qu'à soi, de vouloir la bénédiction à soi, bénis-moi. Et beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de vision, aujourd'hui sont repliés sur eux-mêmes et ne pensent qu'à leur bénédiction personnelle. Et ça ne va pas bien, en plus. Ça ne fait qu'aggraver le problème. La bénédiction a commencé avec un petit garçon. Vous rendez compte comment Dieu nous a tous confondus. Un petit garçon qui a donné son repas. Son petit repas. Et si nous avons une grande vision, parce que j'espère que l'Église a une grande vision, est-ce que Dieu peut faire de grandes choses? Quand on a chanté « Dieu peut tout, n'importe où », moi je me suis régalé de chanter ce cœur, parce que c'est quand même la vérité. C'est des petits cœurs tout simples, mais en fait il y a un message dedans, extraordinaire dans ces petits cœurs. Et il faut comprendre une chose. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très simple, mais de très sérieux. Même si nous avons une grande vision, ça doit commencer par de petites choses. Et ça doit passer toujours par le même chemin, ça doit passer dans les mains du Seigneur. Les pains et les poissons, ils auraient pu faire le tour de la foule, ça ne servait à rien. Ils auraient pu passer partout dans les mains. Il fallait que ces pains se retrouvent dans les mains de Jésus. Notre vie, elle doit être dans les mains de Jésus. Jésus a pris les pains, Jésus les a bénis et Jésus les a brisés. On en revient encore à ce truc. Le miracle, il ne vient pas comme ça, dans n'importe quel domaine. Les gens, des fois, demandent des miracles. Alors, c'est pas du tout malsain, bien entendu. Mais vous vous rappelez l'histoire de ce roi, Hérode, qui a eu un jour la joie de voir Jésus-Christ dans son palais. Et Hérode, qu'est-ce qu'il a voulu? Lisez-le. Parce que ça répondra à ceux qui veulent voir des miracles sans comprendre ce que Dieu attend d'abord. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Moi, cette histoire, elle m'a même fait pleurer, je vais vous dire la vérité. Parce que vous savez, quand on prêche, on médite des fois, et enfin, on se fait un film tellement... Moi, j'y étais dans cette maison, je vous assure, dans ce palais. Dans Luc 23, c'est une affaire incroyable. Un homme, un roi, voit arriver dans son palais le roi des rois. C'était pas une belle occasion, ça? Sérieusement. Bon. Luc 23, 6. Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, regardez comment ça commence. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Vous avez vu comment ça commence? Ça commence avec une grande joie et ça finit avec de la moquerie et du mépris. Mais il y a quand même dans cette affaire quelque chose qu'il faut comprendre par rapport au miracle. C'était un honneur incroyable pour un roi comme pour un vagabond, de toute façon, de recevoir Jésus-Christ dans sa maison. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'était un honneur quand même? Jésus n'a pas été dans toutes les maisons de la Galilée, il a été dans quelques maisons. Et là, Hérode reçoit le Seigneur Jésus dans son palais. Alors, il a la joie de le voir, parce que bien sûr, la réputation de Jésus n'était plus à faire, et lui, il espérait voir un miracle. Et combien de chrétiens, sans vouloir trop imager, combien de chrétiens sont comme Hérode? Ils veulent voir un miracle. Vous croyez que c'était spirituel? Vous croyez que Hérode, c'était une crise de spiritualité qu'il faisait? Non, ce n'était pas du tout spirituel. Les seigneurs n'est pas là pour nous divertir. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur, il n'est pas là pour nous amuser. Le Seigneur Jésus n'est pas un faiseur de miracles pour amuser la galerie. Le Seigneur Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le roi des rois. Il n'est pas là pour qu'on soit spectateur de certaines choses. Dieu veut d'abord que l'on soit des adorateurs. Et beaucoup de chrétiens sont là, « Seigneur, je voudrais voir un miracle, je voudrais voir un miracle. » Alors, on ne sait pas dans quel état d'esprit ça a été demandé, mais je ne suis pas du tout sûr qu'il faut que ça commence comme ça. Je crois qu'on n'est pas des spectateurs. D'abord, la première chose que Dieu demande, c'est d'être un adorateur. Et c'est une question, vous savez, tout à l'heure, j'avais reçu une prophétie, je ne l'ai pas donnée. Pas donnée parce que, vous voyez, bête, pris par l'engrenage de l'heure. Où Dieu demande à quelqu'un, une femme, je pense, de devenir une adoratrice. Vous voyez? Tant mieux, je le dis maintenant. Au moins, je suis déchargé de ce poids. Dieu, dans l'Église, ce soir, demande à une femme, plusieurs peut-être, de devenir, avant quoi que ce soit d'autre, une adoratrice. C'est comme ça. Je vous le dis, je suis rassuré de le dire, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de comprendre qu'avant que Dieu fasse quelque chose, que Dieu réponde peut-être à vos questions, il veut faire de vous une adoratrice. Hérode a posé beaucoup de questions à Jésus. Et Jésus, vous avez vu, ne lui a rien répondu. Et pourtant les choses auraient pu se passer autrement. Quand Jésus est entré, plutôt que de se prendre lui pour le roi, il était sur son trône, sûrement, il n'y a pas à faire, c'est un roi. Donc il était sur son trône, il recevait Jésus, il ne devait pas être assis sur les marches. Il était donc assis sur le trône, et s'il avait, parce qu'il avait un problème à régler quand même, je vous rappelle qu'il avait fait décapiter un des pasteurs de Jésus, qu'on le veuille ou non. Oui ou non? Il y avait un problème à régler quand même avec Dieu, vous ne croyez pas? Un gros problème. Si quand Hérode est rentré, il avait peut-être dit à tout son staff qui était là, écoutez, vous savez moi je suis un petit roi de passage, mais dans mon palais aujourd'hui, il y a le roi des rois. Voyez, quand on accueille Jésus et quand on commence à l'accueillir de cette manière, les choses commencent à changer. Vous croyez que ça aurait été bien s'il avait fait ça? Est-ce que ça aurait été bien s'il avait dit, mais moi je suis roi, d'accord, parce que c'est comme ça, c'est, il en faut un, mais voilà, c'est Thérèse, je suis qu'un homme, mais vous vous rendez compte? Si Hérode avait dit à tout son personnel autour de lui, écoutez, sortez tous, je veux être seul avec Jésus parce que j'ai besoin de lui. Vous croyez que ça aurait... Est-ce qu'il aurait pu le faire? Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Mais bien sûr qu'il aurait pu le faire. Il aurait peut-être justement pu dire, mais je sortais, si vous saviez combien j'ai besoin de le rencontrer. Je n'ai pas besoin d'un miracle. J'ai besoin d'une réponse. Est-ce que Dieu est capable de me pardonner ce que j'ai fait? Est-ce qu'il aurait pu, Jésus, le pardonner? Pourtant, bon, il avait fait décapiter Jean-Baptiste, mais est-ce que Jésus aurait pu pardonner? Mais bien sûr. Et voyez, il a raté une occasion. Il s'est mis à se moquer, à le mépriser, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il lui demandait. S'il avait dit, plutôt que de « je veux voir un miracle », s'il avait dit « Seigneur, éclaire-moi, j'ai entendu, c'est vrai que tu fais des miracles. C'est vrai que j'aurais aimé en voir un. Mais franchement, j'ai besoin de pardon. Je suis sûr que Jésus lui aurait dit, je te pardonne. S'il avait dit, Seigneur, éclaire-moi. Et je crois que, voyez, quand on commence à se mettre entre les mains du Seigneur, quand on est capable de dire, mais moi, j'ai rien à offrir, parce que ça dénote une véritable honnêteté de pouvoir dire, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des choses peut-être à régler. Vous me suivez ? Montre-moi, Seigneur, sur quelle voie je suis. Et il y a des gens qui abandonnent Dieu, qui disent, moi, j'ai demandé au Seigneur de faire quelque chose, il ne l'a pas fait, eh bien, je ne le suis plus. Mais on n'est pas là pour dire au Seigneur, fais ce que je veux que tu fasses. Fais ce que nous voulons. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a des Seigneur, fais ci, Seigneur, fais là, Seigneur, on veut le réveil, alors fais ci, alors fais ça, on a de la joie, Seigneur, que tu sois au milieu de nous. Mais je suis sûr qu'on peut mieux faire. Et qu'on pourrait peut-être dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quelle est la prière que tu veux que je fasse ? Comme David, quand il a péché, qu'il a commis l'adultère, et qu'après il s'est ressaisi, après avoir entendu la parabole de Nathan, pas de Nathan, de Nathan, du prophète Nathan, et qui lui a dit, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me retire pas ton Esprit Saint, pardonne mes transgressions, mais ça a plu à Dieu. Il n'a pas dit, je suis le roi d'Israël, j'ai fait ci, j'ai fait ça, t'as vu les guerres que j'ai fait pour toi, et t'as vu le Goliath, comment je l'ai achevé. Il n'a pas mis en avant ce qu'il a fait, il a dit, Seigneur, renouvelle-moi. Hérode aurait pu dire, Seigneur, je suis minable. Oui, je suis le roi, je suis un pauvre roi. Je te supplie de me pardonner. Et je vous assure que Jésus, enfin ça m'étonnerait, que Jésus ne lui ait pas répondu. Et Jésus nous répondra si on est dans cette attitude de cœur. Et il est passé à côté. Cet homme, il est en enfer. Vu comment il est mort quelques temps après, cet homme, il est en enfer, c'est clair. Je ne peux pas encore me prononcer, mais enfin, quand même, je pense que, compte tenu de comment il est mort, mais il est passé à côté d'une occasion. Et toute l'éternité, cet homme souffrira d'avoir eu le Seigneur Jésus dans sa maison et d'être passé à côté de la bénédiction. Il voulait que Jésus fasse quelque chose pour lui, mais Jésus voulait faire quelque chose dans son cœur. Ce soir, est-ce qu'on est devant Dieu en disant, Seigneur, tu veux faire quelque chose dans mon cœur ? Eh bien, je vais t'aider, Seigneur. Aide-moi, mais je vais me tenir devant toi pour que tu puisses me toucher, pour que tu puisses me former comme les mains du potier peuvent former un vase. Eh bien, je vais me tenir dans ta présence. Je vais me tenir dans le silence. Je vais me tenir à tes pieds. Et à la place de te demander un miracle ici, un miracle là, comme si ça représentait dans mon cœur une grande foi, je vais te demander de transformer mon cœur, je vais mettre ma vie entre tes mains. Hérode, il voulait la bénédiction, il ne voulait pas la transformation. Mais moi, je vous dis que la plus grande bénédiction, c'est un cœur transformé, qui est sensible aux choses de Dieu. Alors, je ne vous dis pas de ne pas demander de faire des miracles, parce qu'on peut le faire tout en étant transformable, enseignable, entre ses mains. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce qu'on demande des miracles qu'on n'est pas non plus entre les mains du Seigneur. Mais on peut faire beaucoup de choses avec un cœur fermé. Les chrétiens de Sardes faisaient plein de choses et pourtant ils étaient morts. On peut prier avec un cœur fermé. Est-ce qu'on peut prier avec un cœur incrédule ? On peut prier avec un cœur plein de ressentiment ? Oui. Et je crois vraiment que ceux qui veulent voir l'œuvre de Dieu diront, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que ce soir c'est votre prière ? Seigneur, sonde mon cœur. Il n'y a que comme ça que ça marche. Lorsque Saül était petit à ses yeux, il est devenu roi. Et le Seigneur lui avait dit, mais lorsque tu étais petit à mes yeux, n'es-tu pas devenu roi ? Et l'Éternel t'a oint. Réapprendre à redevenir petit plutôt que d'être sur son trône et de commander à Dieu. Vous savez, il y a une loi dans le royaume. Si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne meurt pas et il ne porte pas de fruits. Jésus a pris les pains, vous vous rendez compte ? 5 petits pains. 2 petits poissons, ailleurs il est dit que c'était 2 petits poissons, et j'ai lu dans des commentaires que les poissons, les petits poissons, c'était les poissons que les pêcheurs rejetaient quand ils les triaient, c'était du poisson qui n'était pas vendable, dont les petits poissons, ça indique que c'était obligatoirement le repas d'un pauvre. C'est, ça tient debout. Hein. Et bien voyez, avec un enfant pauvre, il aurait pu dire, bon je te donne un pain, les autres quand même vont. Hein, il a tout donné. Ça représente un chrétien qui donne sa vie. Ma vie, je la mets entre tes mains. C'est ça que Dieu dit. Quand Dieu dit « je cherche un homme », c'est ce qu'il veut. Et les pains brisés, ça veut dire « Seigneur, ma vie, je la mets entre tes mains et tu en fais ce que tu veux. Dieu ne va pas s'amuser avec vous. Dieu ne joue pas avec les chrétiens. Quand je vois le prix qu'il a payé, ce n'est pas pour se jouer de nous. Dieu ne joue pas avec nos nerfs, avec notre santé, avec notre vie. Le Seigneur, il nous aime. Et s'il nous brise, ce n'est pas pour nous tuer. S'il nous brise, c'est pour nous guérir de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Le brisement, c'est l'école de Dieu. Votre vie, ma vie, doit être entre les mains du Seigneur. L'assemblée doit être entre les mains du Seigneur. Et c'est une question qu'on doit se poser. Il faut examiner la semaine. Tiens, on est quoi? Mardi soir. Depuis dimanche matin, ma vie a-t-elle été entre les mains de Dieu? Ou ma vie a-t-elle été entre les mains du Dieu Google? J'en sais rien. Et c'est des questions sérieuses. Ma vie est-elle focalisée sur Facebook? Il y a des gens qui m'ont dit, moi je passe 3 ou 4 heures à chatter. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Votre vie, dans les mains de qui est-elle? Vous devez pouvoir répondre. Vous devez avoir cette honnêteté. Vous pouvez dire, ma vie, c'est moi qui la dirige, je fais ce que je veux. J'aime Dieu, voilà, et bien, continuez. Mais si nous voulons voir le réveil, il faut que l'Église soit dans les mains du Seigneur. Toute l'Église. C'est de notre devoir de nous appliquer consciencieusement à faire en sorte que Dieu nous trouve joyeux, parce qu'il faut une obéissance de cœur. Ce petit garçon, ils n'ont pas tordu le bras, va donner les pères à Jésus, t'as intérêt. Ils n'ont pas couru derrière pendant 3 kilomètres à 7 ou 8 apôtres. Ça y est, on l'a coincé. Non, je crois que ça ne tient pas beaucoup, ça. Ce petit enfant, il était là. Il était au bon endroit. On est au bon endroit lorsqu'on n'est pas loin du Seigneur. Qu'on est prêt à lui dire, Seigneur, je viens te donner. Ce soir, on est quand même pas loin du Seigneur. Oui. En venant dans ce lieu, quand même, on n'est pas loin du Seigneur. On est dans sa présence, on est là au pied de sa parole. Qu'est-ce qu'on fait de nos petits pains? Bien sûr qu'on peut le rechanter. J'ai rien à t'offrir, mais je sais qu'il faut que j'arrête de te demander de faire un miracle, de faire ci, de faire là, parce que tu es puissant. Jésus risque de ne pas nous répondre. Mais si on s'enferme seul, si on fait véritablement devant Dieu ce qu'il faut faire, je crois que l'œuvre de Dieu prospérera. Elle ne peut prospérer que entre ses mains. Joseph a été entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu. Il a été brisé. Il n'a pas été brisé? Bien sûr que nous, quand on voit Joseph, on le voit revêtu de fin lin, assis sur la deuxième limousine du royaume. Et bien sûr, tout le monde en train de se prosterner, l'anneau d'or de Pharaon, la carte bleue, diamant, hein, à son doigt, etc., etc. Mais Joseph, ça n'a pas été que ça. Avant d'avoir des vêtements de fin lin, on lui a déchiré sa tunique de plusieurs couleurs. Vous ne croyez pas que ça a dû être dur quand on a pris sa tunique, que son père lui avait fait faire, etc. Est-ce que ce n'était pas une épreuve, ça? Parce que ses frères ne le supportaient pas, ils y ont déchiré sa tunique, après ils l'ont ramené. Vous savez le parcours. Il a été élevé sur le trône comme premier ministre, c'est un truc de fou quand on y réfléchit. Mais avant d'être élevé, il a été jeté dans une citerne en pensant certainement qu'il n'allait pas y passer la nuit. Avant d'être connu, parce qu'il est connu, parce qu'on parle de lui aujourd'hui, je pense que des millions de gens aujourd'hui ont entendu parler de Joseph. Il nous est dit dans la Bible qu'il a été oublié. Il a accepté le brisement. Je termine avec une pensée, une seule pensée. Quand Jésus est remonté au ciel, il a fait quelque chose. Il a fait une communauté de prière. C'est la seule chose que Dieu a fait. Il a rassemblé. C'est 120, enfin il aurait pu en avoir d'autres, mais il n'y avait que 120, bon, c'était, avec ces 120 il a pu changer le monde. Mais une chose est sûre, voilà, une fois de plus, ce n'est pas une question de nombre, mais la dernière chose que Jésus a fait avant de remonter au ciel, c'est de mettre en place une communauté de prière à Jérusalem. Et son plan n'a pas changé, c'est d'avoir une église qui prie. Bien sûr, dans nos réunions de prière, chez soi, une église qui prie. Parce que quand on prie, on dépend de Dieu. Quand on ne prie pas, c'est qu'on ne dépend pas de Dieu. Vous ne croyez pas? Enfin, peut-être aussi, je le dis vite parce que l'heure passe, mais c'est quand même ça. Un homme qui prie, un homme qui aime la prière, une femme qui aime se tenir devant Dieu, c'est une femme qui dépend de Dieu. Et il y a la prière individuelle, il y a la prière collective. Alors il y a nos vies ce soir qui sont comme ces petits bouts de pain, comme ces deux petits poissons. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on accepte d'être prouvé? Est-ce que spontanément, comme ce petit garçon qu'on n'a pas forcé, Seigneur, ma vie, il faut qu'elle soit entre tes mains. Ce n'est pas possible que je sois entre tes mains juste le dimanche ou le mardi et qu'après le restant de la semaine, ma vie est entre les mains du monde ou de ma propre existence. Alors je vous invite à fermer les yeux. Vous voulez bien, hein? On est vraiment sous le regard de Dieu. Je m'autorise à faire un appel. Je reviens à la prophétie que j'avais reçue, à la personne qui doit devenir une adoratrice ou un adorateur. Je pense que c'est pour une femme ou plusieurs femmes. Dieu vous attend dans l'adoration. D'ailleurs, vous savez, c'est le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Parce que je suis convaincu que ce commandement renferme tous les autres. Et quelqu'un qui adore ne pourra pas faire autrement que d'honorer son père et sa mère. C'est obligé. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui adore ne pourra pas devenir un meurtrier ou un voleur ou un menteur. Alors nous qui sommes sous le regard de Dieu, considérez-vous ce soir comme ce petit garçon ou comme cet ami qui est réveillé et qui dit mais qu'est-ce que je peux donner? Est-ce que Dieu peut vous donner ce soir? Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu sait ce qu'il va faire? Est-ce que Dieu peut faire un miracle à Toulouse? Je répète, c'est Dieu qui le fera. Oui, avec une église qui est entièrement entre ses mains. Et c'est notre responsabilité à chacun d'être sérieux. Lorsque nous sommes ici, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes à la faculté, lorsque nous sommes à la banque, lorsque nous sommes au supermarché, dans la voiture, dans notre maison, devant notre télé, c'est notre responsabilité de faire en sorte que toute notre vie soit sanctifiée. Que ton nom soit sanctifié. On ne va pas allonger cette réunion pour l'allonger, ça n'a aucun sens. La pensée a été apportée. J'ai donné le message qui était sur mon cœur. Et je supplie les chrétiens qui sont soucieux du réveil de s'appliquer encore plus à abandonner leur vie entre les mains de Dieu. Entièrement. Dieu sait ce que vous faites chez vous dans votre maison. Voyez là, le Seigneur est en train de montrer quelqu'un qui à la maison fait des choses graves. Et ça, il faut le régler. Il faut le régler. Ça ne sert à rien de prier si après on se permet des choses impures à la maison. Voyez, ce sont des choses comme ça. Dieu les permet peut-être pour nous éclairer un peu plus. Alors, saisissons cette victoire. Seigneur, ma vie, oui, je vais faire comme ces pains. Je la mets dans ta main. Je vais partir, mais ma vie sera dans ta main. Tout à l'heure, je vais me coucher. Mais je serai dans ta main. Et je vous assure, nous verrons ce que Dieu veut que nous voyions. Il n'y a pas de honte à dire, j'ai rien, j'ai plus rien à offrir. Je suis vide. Mais toi, Seigneur, tes ruisseaux sont pleins. Je suis sec. Mais ton cœur, Seigneur, est plein de grâce.